Bonjour, cet épisode a été enregistré le 27 avril 2011. Architect est un podcast sur les sujets d'architecture en français. Il est disponible à l'adresse de référence architech.archims.fr où vous trouverez de quoi vous abonner ou regarder les vidéos et écouter les épisodes en audio via Channel 9. Je suis Benjamin Guinvertière, architecte en système d'information au sein de la division plateforme et écosystème de Microsoft France.
Et je suis Thomas Comté, architecte en système d'information dans cette même division.
Eh bien, Thomas, aujourd'hui, nous allons parler de
Public Cloud.
Voilà, le nuage public.
Donc, sous toutes ses facettes, puisqu'on a pas mal de briques chez Microsoft, d'implémentation du Public Cloud.
Alors Thomas, l'informatique en nuage public.
Oui, donc comme toujours dans notre série, une page web qui a donc toujours vocation à évoluer.
Hein, oui, en lien avec une des disciplines d'architecture, et cette page est destinée à arriver sur le portail architecte de MSDN France.
MSDN, donc le lien direct public-cloud.archims.fr pour atteindre cette page-là. On retrouve toujours nos liens vers forum.archims.fr où l'on peut retrouver l'ensemble des architectes sur la plateforme applicative Microsoft, sur LinkedIn. Et une adresse email si vous avez des questions, des remarques, des sollicitations, public-cloud@archims.fr.
Voir des projets.
Voir des projets, on ne sait jamais. Donc la table des matières de cette page public cloud, hein, assez riche. Donc après une introduction, une vue d'ensemble avec le schéma synoptique, une classification des différents types de public cloud,
hein,
on va voir qu'il y en a plusieurs, des liens vers des ressources importantes, du vocabulaire, hein, parce qu'on a encore une fois lié à la classification pas mal de termes qui reviennent souvent, et puis on va ensuite aller directement dans les implémentations. Aujourd'hui dans la plateforme Microsoft, il y a beaucoup de choses qui partent vers le public cloud. Donc, on a Windows Azure, on a Office 365,
ouais,
on a CRM Online,
ouais,
et on a des solutions de supervision.
D'accord.
Toutes choses qu'on va trouver dans le public cloud. Voilà. Et puis, une question qui revient souvent tout de même, c'est je mets des choses dans le cloud, j'en ai plusieurs, comment est-ce que j'intègre tout ça?
D'accord.
Donc, l'intégration des différentes solutions.
Très bien.
Donc, comme on l'a dit, ce document, vous le retrouvez à public-cloud.archims.fr. Et on va passer directement à la vue d'ensemble. Donc la vue d'ensemble, le but est finalement de dissiper le nuage, puisque le public cloud, donc ça recouvre finalement pas mal de choses.
D'accord.
Le NIST a fait un travail qui a permis d'arriver à une synthèse,
hein, ouais,
qui permet de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est du cloud et qu'est-ce qui n'est pas du cloud.
Et quel type de cloud il y a, ce sont des définitions qu'on retrouve indépendamment de Microsoft.
Absolument.
Qui sont généralement assez bien reconnues.
Elles sont reconnues, absolument. On a des caractéristiques essentielles,
oui,
des modèles de service,
oui,
des modèles de déploiement.
D'accord.
Okay. Les caractéristiques essentielles donc, du public cloud, c'est quelque chose qu'on va accéder via le réseau, via,
oui,
Internet, hein, typiquement. Voilà. Quelque chose qui offre des ressources élastiques. Donc,
oui,
ça veut dire que je peux avoir très rapidement des ressources, que ce soit des boîtes aux lettres, des CPU, du stockage, etc. Voire même une évolution dynamique,
d'accord,
de ces ressources. J'ai un service qui est mesuré, surveillé en permanence.
D'accord.
Okay. J'ai un aspect self-service.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui est très recherché par notamment les utilisateurs. Hein. J'ai besoin de 100 boîtes aux lettres. Et ben, je vais sur un portail, je demande 100 boîtes aux lettres. Voilà. Du point de vue du coût, on va dire, hein, et voilà, d'un coût qui peut être plus bas que l'implémentation peut être à demeure. Hein.
Ouais.
Les fournisseurs de services public cloud eh ben, s'appuient sur une mutualisation des ressources, hein, donc du pooling de ressources. Donc, on mutualise les infrastructures sur plusieurs clients et on en tire des bénéfices en termes de coûts. Ensuite, les modèles de services. Donc là aussi, c'est important pour clarifier la chose. Donc on a le IaaS, alors c'est tout AAS, donc c'est as a service. On a le IaaS, c'est l'infrastructure. Le PaaS, c'est la plateforme. Et le SaaS, c'est le software.
Okay. On va en reparler peut-être.
On va en reparler juste après.
Peut-être pas dans le détail, mais...
Peut-être pas dans le détail, mais c'est important. Donc l'infrastructure, la plateforme, le software.
D'accord.
As a service. Au niveau des modèles de déploiement, très rapidement, puisque aujourd'hui on se focalise sur le cloud public, hein, mais on classifie des clouds privés. privé également, donc implémenté par un client ou un hébergeur à destination de son usage personnel ou de la revente.
Ouais.
Des clouds hybrides,
ouais.
D'accord, donc un mix privé-public. Et puis, alors communautaire, il y a plusieurs termes qui circulent, hein, mais ou quelque part un consortium, une très grande entreprise ou peut-être des collectivités locales vont se grouper pour se créer un cloud qui est plus en privé puisqu'il est partagé, mais il n'est pas non plus public.
D'accord.
Donc ça, c'est simplement des modèles de déploiement. Ça ne change pas les caractéristiques essentielles du cloud. Donc très rapidement au niveau donc de notre
ça va
schéma.
Présenter ça graphiquement, disons.
Voilà, notre schéma synoptique. Donc on est dans le modèle de déploiement public de toute façon, et on retrouve les différents modèles. D'accord. Donc les différents modèles globalement permettent de voir que l'idée par rapport à l'informatique traditionnelle est de se débarrasser de la tâche de mise en place, d'administration, de gestion d'une partie de l'infrastructure.
Donc là, pour ceux qui sont à MP3, ça va être plus difficile, mais en gros, ce qui est en bleu est géré par l'utilisateur du cloud et ce qui est en blanc est géré par le fournisseur de cloud.
Exactement. Donc, globalement, quand je fais de l'infrastructure as a service, mon fournisseur me débarrasse, se charge du réseau, du stockage, des serveurs, de la couche de virtualisation, okay, et ensuite, il me donne ça. Et après, je vais devoir par-dessus installer un OS, mes applications, etc. Le plateforme de service va plus loin en termes de délégation, puisque là, le fournisseur de service va typiquement vous donner non seulement le hardware, mais également un OS installé, votre runtime installé, l'environnement d'exécution installé, les bases de données potentiellement installées, et il n'y a plus qu'à déployer l'application dedans.
D'accord.
Ça, c'est le plateforme de service, qui va donc plus loin et qui cible forcément plus les développeurs.
Oui.
Que de l'infrastructure.
Au centre du IaaS, c'est la machine virtuelle. Au centre du PaaS, c'est l'application.
L'application, exactement. Et puis évidemment, on a le SaaS, donc le software as a service, où l'idée c'est que je me débarrasse complètement de quoi que ce soit. Je n'ai plus qu'à gérer éventuellement les données. Il faut que je m'intéresse aux données, donc mes boîtes aux lettres, etc. Des choses comme ça. Qu'est-ce qui
est au centre du SaaS, c'est plutôt l'utilisateur. Là,
voilà. Et l'utilisateur, lui, il accède à un service qui n'est plus du tout chez moi, comme du mail ou du travail collaboratif.
Très bien. Donc, on voit un peu la classification. Comment est-ce qu'on peut classifier les différents clouds?
Voilà, c'est important juste pour comprendre que le cloud, c'est vaste. Il y a, tout ça, c'est quand même assez structuré. Et après, dans les implémentations, on reprendra un peu tous ces termes-là pour regarder ce qu'on fait.
La page de référence.
La page de référence, donc microsoft.fr/cloud, où on trouve l'ensemble de ces solutions cloud public.
D'accord.
Au niveau du vocabulaire, on va retrouver les termes qu'on vient de, qu'on vient d'évoquer.
Très bien.
IaaS, PaaS, SaaS, les fameux.
Et autres termes.
Et autres termes. Et on passe donc à la partie implémentation.
Ah.
Où là, on va retrouver donc nos catégories, à commencer par le plateforme as a service.
D'accord.
Donc, plateforme de cloud public qui, on va dire, vise les développeurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent développer et déployer leurs applications dans un cloud public et donc ne pas du tout avoir à gérer l'infrastructure. Donc, développeurs .NET, mais pas que. Développeurs .NET, Java, PHP, etc. Donc, en fonction des technologies, on a une intégration
Ruby.
Plus ou moins Ruby.
Après,
on peut tout mettre, mais en fonction, alors voilà, en fonction des développeurs, de l'intérêt aussi de la communauté, et puis du mode de fonctionnement des développeurs, on a une intégration plus ou moins poussée avec les environnements de développement. Par exemple,
d'accord.
En Java, Eclipse est quand même très très répandu.
Ouais.
Donc là, on travaille une intégration directement dans l'environnement de développement. Dans le monde PHP, c'est quand même beaucoup plus diffus. Il y a des tonnes de. Il n'y a pas un éditeur, un IDE qui domine. Donc là, on offre plutôt des outils en ligne de commande qui permettent facilement de packager, de déployer ces applications.
Oui, le développeur PHP qui travaille avec Notepad++, par exemple.
Notepad++, voire pas plus plus. Alors, dans Windows Azure, on vise les développeurs, on leur donne un certain nombre de fonctionnalités dans la plateforme.
On ne va pas détailler l'ensemble de Windows Azure, mais en gros, on a trois gros blocs.
Voilà, les gros paquets, c'est Windows Azure, la plateforme d'exécution d'hébergement.
D'accord.
En fait, on peut y réfléchir comme de l'hébergement extrêmement automatisé.
Ouais.
Donc, on va pouvoir avoir des machines virtuelles, mais elles sont pré-packagées.
D'accord.
On n'a pas à les installer, on n'a pas à les configurer. De même, on va avoir du stockage qui est prêt à l'emploi, donc du stockage de blobs, donc de fichiers, ou bien de données structurées plus sur un mode NoSQL.
D'accord.
Dans cette plateforme de Azure, voilà, les tables Azure. On va avoir des API de management qui vont permettre d'automatiser la plateforme, c'est très intéressant. Et un CDN intégré, donc qui va permettre de cacher les objets au plus près des utilisateurs.
CDN, c'est quoi, Stella?
CDN, Content Delivery Network. Content
D'accord.
Delivery Network. Hein. Donc, le but est de répliquer les datas, notamment les images, au plus près des utilisateurs. Donc là-dedans, on a fait déjà des épisodes architectes dans lesquels on plonge un peu plus
oui.
hein, dans les rôles, etc. Mais on reprend en synthèse tout ça. Deuxième gros bloc, SQL Azure, donc qui est SQL as a service, hein, SQL Server as a service. Donc là, l'intérêt encore une fois, c'est que on n'a pas une machine virtuelle avec SQL Server dedans. On a un service qui est donne-moi une base, s'il te plaît, tiens, voilà une chaîne de connexion, t'as 10 gigas, vas-y. C'est vraiment
D'accord.
un service, self-service, sans rien installer ni configurer. SQL Azure qui essentiellement aujourd'hui offre les fonctionnalités relationnelles de SQL Server.
D'accord.
Mais en CTP, on commence à avoir des aspects BI, notamment Reporting Services, qui apparaissent.
D'accord.
Et dernièrement, la Windows Azure App Fabric. Donc on peut voir comme un ensemble de services applicatifs
ah
qu'on
oui.
peut utiliser dans l'application. Alors qui a son pendant serveur qui s'appelle Windows Azure, Windows Server App Fabric.
Ah oui.
Okay. Avec un
App Fabric, c'est la plateforme Microsoft, grosso modo, ça veut dire serveur d'application.
Exactement, serveur d'application. Il y en a un peu deux moutures différentes,
ouais.
voilà. Mais il y a des services communs, comme par exemple le cache. Hein. Le cache, on le retrouve aussi bien dans serveur que dans Azure. Donc le cache est très intéressant pour les applications cloud, qui sont souvent des applications on va dire, à forte charge.
Ouais. Hein.
On va pouvoir cacher en mémoire des données fréquemment accédées. On va avoir la partie service bus qui va permettre de virtualiser un service qui serait exposé en interne par une société. Alors typiquement dans le cloud, même si c'est pas limité en utilisation à une application qui tourne dans Azure, hein, mais l'idée principale c'est de pouvoir accéder à un service qui est exposé en interne sans avoir à le mettre en DMZ, etc. et en faisant un rebond, un relais via le service bus de Azure App Fabric. Et finalement, ACS.
Access Control Service,
qui offre donc des services de fédération d'identité, de sécurisation pour les services web, mais aussi pour l'application
ouais.
elle-même.
Je crois qu'on avait mis en CTP, là maintenant voilà. c'est passé en RTW, donc
disponible.
En Release Web, donc disponible en version finale.
Absolument. Donc voilà, petit tour d'horizon très rapide de Windows Azure, plateforme PaaS, public, Microsoft. Deuxième partie, la plateforme, la partie SaaS, Software as a Service. Okay. Le gros morceau qui va nous intéresser là, c'est Office 365, que l'on connaissait également sous le nom de
BPOS,
donc Business Productivity Online Suite.
Ouais.
Là, c'est, il faut le retenir. Hein, le...
Ou donc, Services d'ailleurs, je ne sais plus.
Oui, c'est possible. Donc, c'est une suite de services. Alors, globalement, c'est la plateforme productivité de Microsoft.
Ouais. Hein,
donc, pour rappel, c'est Office, SharePoint, Exchange, Link.
Ouais. Hein,
tout ce qui permet de communiquer, de collaborer, d'élaborer des documents en entreprise. Office 365, c'est la version public cloud de ça. Donc,
D'accord.
c'est l'ensemble de ces services-là sous forme de services. On va commencer en Office. Hein, c'est, je l'aurais mis peut-être en dernier, mais donc Office.
La partie moins cloud de
ouais,
la partie cliente du.
Voilà, il y a deux aspects. Ça participe dans la plateforme, on va dire, SaaS, puisque c'est le client typiquement que je vais utiliser avec Outlook, Word, Excel, etc. Simplement, au lieu d'être connecté à des serveurs internes, ça va être connecté à des services dans le cloud.
Ouais.
Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a donc les Office Web Apps
ouais.
intégrés dans Office 365 qui sont des versions web. D'Office, hein, qu'on utilise d'ailleurs pour ces webcasts pour afficher les documents et les présentations parfois. Donc ça permet de visualiser et d'éditer des documents directement en ligne dans un navigateur.
Ouais.
Voilà, pour certains, on va dire, scénarios simples d'édition. Okay. Ensuite, on retrouve dedans eh ben, les produits qu'on connaît à demeure, donc SharePoint. Essentiellement les scénarios collaboratifs, partage, réseaux sociaux, etc., workflow, recherche, tout ce qu'on sait faire avec SharePoint, mais online. Exchange, donc toute la partie email, d'accord, avec des caractéristiques de l'intégration de l'anti-spam, de l'antivirus, forefront,
ouais.
des quotas en termes de boîte aux lettres assez intéressants, puisqu'on en est à 25 gigas dans cette édition. La possibilité d'accéder à ça par Outlook, avec son téléphone, que ça soit du Windows Phone, du BlackBerry, de l'iPhone, j'en passe
ouais.
le meilleur.
C'est pas que la partie email de Exchange, hein, c'est vraiment Exchange dans son
oui, bien sûr.
Il y a le calendrier, les tâches, etc.
C'est la totalité d'Exchange disponible sous forme de service et également sous forme de web. Et la dernière partie, donc Link Online, donc Link le successeur de Communicator, Communication Server, qui intègre la présence, la messagerie instantanée, les appels audio-vidéo et tout ça intégré dans Outlook directement, les conférences en ligne, les webcasts, etc. Donc il y a un client Link également qui va te faire tout ça, et puis une version web.
D'accord, donc ça c'est Office 365.
Office 365, absolument. Alors, juste une petite parenthèse sur SharePoint Online, le composant SharePoint Online, qui a des aspects de développement. Donc on peut développer des choses, ce n'était pas le cas avant avec BigBoss, on ne pouvait pas du tout développer. Avec Office 365, on a une solution qui s'appelle les Sandbox, qui permet de développer des applications dans un environnement contrôlé au sein de SharePoint. Alors ça a des bénéfices puisqu'on peut contrôler les ressources, on peut mettre des quotas en termes d'utilisation, etc. Ça a des contraintes aussi, on ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités de SharePoint. Mais on peut donc mettre ses propres applications dans SharePoint Online.
D'accord.
Ça c'est intéressant. Toujours dans l'offre SaaS, on change un peu de domaine, on a la partie CRM Online.
D'accord.
D'accord. Donc un peu deux aspects, un aspect pur SaaS avec CRM Online, donc c'est le logiciel de CRM de Microsoft disponible sur internet, comme toujours, accessible avec
gestion de la relation client, CRM,
relation client, absolument. Et
donc CRM comme gestion relation client.
Oui, c'est GRC. utilisé avec un PC, un navigateur, voilà, et des aspects intéressants avec ce qu'on appelle XRM, qui est un aspect plus PaaS. Puisque c'est la plateforme CRM sur laquelle on va pouvoir développer ces applications.
Ouais, donc là, on va préciser des entités qui peuvent être n'importe quoi, en lien à un moment ou à un autre avec un contact ou un client. Quoi.
Voilà, on va se baser sur un modèle objet qui est propre à CRM et qu'on imagine quand même assez orienté autour d'un client, d'accord, mais sur lequel on va pouvoir étendre, on va pouvoir ajouter des propriétés. Et notamment, il y a un ensemble de web services, dans CRM Online aussi, qui va permettre, si on le souhaite, soit d'accéder à ces fonctions de CRM depuis une application web complètement séparée, hébergée dans Azure ou n'importe où, et de même pour XRM. Donc on peut faire ses propres frontaux, bien intégrer les fonctionnalités dans ses sites web. Voilà, le lien donc général pour des informations sur Dynamics
CRM Online. Si je clique là, c'est bon.
Voilà, c'est ici qu'on clique. Alors, plus, peut-être moins connu et plus inattendu, on a des solutions de supervision également sous forme de services publics. Donc notamment Windows Intune.
Ouais.
Donc Windows Intune, ça permet de gérer les PC de l'entreprise sans avoir à les installer chez soi, une infrastructure, un serveur, etc.
D'accord.
Donc c'est plus destiné à des PME aujourd'hui, des petites sociétés, peut-être moins de 500 PC il me semble. Et on va pouvoir gérer les mises à jour, les malwares, monitorer les PC, prendre contrôle à distance sur le PC, etc. Donc pour des PME, on a une offre de gestion complètement outsourcée.
Sans avoir à mettre en place une infrastructure SCCM comme le ferait des grands comptes.
Un System Center, exactement.
System Center Configuration Manager. À noter aussi que Windows Intune est aussi un moyen d'avoir une licence de Windows 7 Entreprise.
Absolument. Benjamin, tu me dis deux mots sur Microsoft System Center Advisor.
Alors, System Center Advisor, c'est un moyen de pouvoir surveiller, par exemple, SQL Server. Donc, on a une instance SQL Server dans laquelle on va pouvoir qu'on va pouvoir surveiller avec System Center Advisor. Et on va avoir des conseils sur l'optimisation possible, sur le suivi de cette instance, etc. Donc c'est aussi un moyen de surveiller une infrastructure qui est à demeure avec une infrastructure de monitoring qui, elle, est dans le nuage sans avoir installé une infrastructure spécifique pour ce monitoring.
Ok.
Donc là encore, peut-être un peu inattendu, mais un software as a service dédié à l'informatique.
Ok, fantastique. Donc ensuite, quelques mots sur l'intégration des différentes solutions. Alors, on peut voir ça un peu dans plusieurs dimensions. Donc, quelque chose qui revient assez souvent, c'est SharePoint et Azure.
Oui.
Okay. Notamment SharePoint Online et Azure, hein, donc, parce que SharePoint Online est quand même un environnement assez, donc on l'a dit, assez contrôlé.
Ouais.
Azure, à l'inverse, on peut développer ce qu'on veut.
Ouais.
Donc les deux sont bien complémentaires. Donc on a le blog de Steve Fox,
ouais, qui est assez actif sur le sujet.
Qui est actif sur le sujet et qui imagine plein de solutions d'intégration entre les deux. Pour étendre SharePoint Online via Azure.
Ou SharePoint 2010.
Ou SharePoint 2010, bien sûr.
Hein,
à demeure. Hein,
les parle des deux souvent.
Absolument.
On a également CRM Online qui s'intègre avec le système d'information de l'entreprise via AppFabric Service Bus. Donc c'est un moyen en fait d'avoir le CRM qui reste connecté au système d'information de l'entreprise et donc qui tire parti de AppFabric Service Bus.
Okay.
Et donc on trouve des informations là-dessus à cette URL là.
D'accord, donc j'ai mis mon CRM dans le cloud, mais il faut quand même qu'il communique avec mon système d'information.
Ouais.
Et c'est Azure Service Bus,
oui,
qui fait le pont entre les deux.
Exactement.
Fantastique.
Et puis également le fait d'avoir un lien entre SCOM, System Center Operations Manager 2007 R2, avec Azure. Donc là c'est l'inverse, on a une application dans le nuage. Dans Azure.
On va la surveiller.
Et on va la surveiller avec une infrastructure à demeure.
À demeure.
C'est l'inverse de ce qu'on
a dit
avant.
On peut le faire dans tous les sens.
On peut le faire dans tous les sens. Donc là, il y a effectivement, par exemple, le blog de Walter Meyers qui permet de montrer comment est-ce que ça peut se faire.
Très bien. Voilà, on a fait le tour.
Oui, bien écoute, merci.
Merci Benjamin.
Donc où retrouve-t-on cette fameuse page, Thomas?
public-cloud.archims.fr.
Oui.
C'est l'URL de référence.
Oui. Les ressources de Architech sont à http://architech.archims.fr. Et voilà, c'est tout pour cette fois. À la prochaine fois.
À la prochaine.